Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La colère grandit en Iran après la mort de Mahsa Amini. Les manifestations se poursuivent dans le pays après le décès de cette femme de 22 ans vendredi dernier suite à son arrestation par la police des mœurs. Combattre le fléau de l'inceste. Le gouvernement français a annoncé des mesures pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants. Des mesures inspirées par la commission indépendante sur l'inceste qui vient de livrer son rapport. Son coprésident, le juge Édouard Durand, sera l'un de nos invités. Des représentants des États-Unis, de la France et de l'Arabie Saoudite exhortent les autorités libanaises à mettre en œuvre les réformes exigées par le Fonds monétaire international et à organiser l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels, un appel en marge de la 77e Assemblée générale des Nations unies. L'été 2022 a été une excellente saison. Nous avons atteint les objectifs fixés. Un constat au micro de Radio Orient du ministre tunisien du Tourisme et de l'Artisanat. Il était l'invité de rencontre hier soir et ce matin, extrait dans votre édition. La colère reste vive et s'intensifie même en Iran après la mort de Mahsa Amini vendredi dernier. Cette jeune femme décédée après avoir été arrêtée par la police des mœurs à Téhéran. Des manifestations nocturnes ont encore éclaté pour la 5e nuit consécutive dans de nombreuses villes d'Iran. Des manifestations réprimées par la police. Le bilan s'établit à au moins 6 morts selon les autorités iraniennes. La contestation s'est également étendue aux universités comme à Al-Zahra et à Téhéran. La commission indépendante sur l'inceste en France a livré hier un rapport sur les conséquences traumatiques de l'inceste, cela suite aux plus de 16 400 témoignages qu'elle a recueillis en un an. Le gouvernement a annoncé plusieurs mesures, comme le dépôt au Parlement d'une modification législative permettant le retrait de principe de l'exercice de l'autorité parentale en cas de condamnation d'un parent pour violence sexuelle incestueuse sur son enfant. Cette commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants veut porter la voix des victimes de violences sexuelles dans l'enfance qui lui ont confié leur traumatisme. Entretien avec son coprésident, le juge Édouard Durand.
Lorsque nous avons lancé l'appel à témoignages, nous savions que ce serait le cœur de notre mission, créer cet espace de solidarité entre les personnes victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Nous savions aussi que nous répondrions à un besoin silencieux dans la société, mais un besoin très vif et très exigeant. Et 16 414 témoignages dit bien à quel point cette vague était souterraine et à quel point elle devait émerger, à quel point enfin la société devait prendre conscience de cette réalité terrible qu'elle a trop longtemps minimisée ou cachée. Donc c'est quelque chose de très important que ce mouvement de toutes ces femmes et ces hommes victimes de violences sexuelles dans l'enfance et notamment d'inceste, qui viennent à la Civise pour trouver reconnaissance et changer la société.
Et comment repérer ou mieux repérer les victimes aujourd'hui?
C'est fondamental, le repérage des enfants victimes de violences sexuelles. D'abord parce que chaque année en France, il y a 160 000 enfants victimes de viols ou d'agressions sexuelles, notamment dans la famille. L'urgence, c'est d'aller les chercher pour les mettre en sécurité. Ensuite, parce que l'agresseur, toujours, pour assurer son impunité, impose le silence à l'enfant, crée un secret qui contamine et qui piège l'enfant. C'est donc l'attitude protectrice des adultes et tout particulièrement des professionnels qui travaillent avec les enfants, par le questionnement systématique, qui va permettre à l'enfant de se sentir en confiance et de révéler les violences qu'il subit. Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal ? Raconte-moi comment ça se passe à la maison. La loi interdit la violence. À ce moment-là, l'enfant sait qu'il peut faire confiance. Il sait qu'il est en présence d'un adulte qui sera en capacité d'encaisser le stress de la révélation des violences et d'enclencher la protection.
Vous faites état de plus de 16 400 témoignages reçus en un an, mais une personne sur 10, un enfant sur 10 aujourd'hui en France a été victime de violences sexuelles?
Oui, la commission Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Église de France avait montré par son enquête en population générale que dans la population adulte, 5,5 millions de femmes et d'hommes ont été victimes de violences sexuelles. C'est un chiffre extrêmement important, bien sûr, et qui montre donc une personne sur 10 est victime de violences sexuelles autour de vous, autour de moi, autour de nous, autour de tout le monde, dans la famille, dans la maison, au travail, dans l'entourage amical, dans la rue. Nous croisons des personnes, nos semblables, qui ont été victimes de violences sexuelles.
Existe-t-il des victimes qui s'ignorent, des personnes qui n'ont pas de souvenir de leur agression ?
C'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique, qui est un mécanisme de défense du cerveau humain pour se préserver de la mémoire traumatique et de la souffrance extrême générée par le passage à l'acte de l'agresseur. Et nous avons rencontré beaucoup de personnes adultes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance et qui nous ont parlé de l'amnésie traumatique et d'un épisode de leur existence qui les a conduits à sortir de l'amnésie traumatique.
Alors comment la réparation judiciaire peut s'effectuer lorsque le bourreau est décédé, notamment pour ces cas de troubles du stress post-traumatique qui interviennent parfois longtemps après le crime ?
La première urgence, c'est de consolider les enquêtes pénales et toute la procédure pénale pour pouvoir lutter contre l'impunité des agresseurs et pour pouvoir assurer la protection et la réparation des victimes. C'est absolument fondamental. Notre système progresse, mais il est encore trop fragile et il faut le consolider. Il y a des cas, notamment lorsque les faits sont prescrits ou que l'agresseur est mort ou la victime ne peut trouver dans l'espace judiciaire une réparation et une reconnaissance. Nous devons réfléchir aux moyens de permettre cette reconnaissance et cette réparation. Cette réparation est importante à plusieurs titres parce que les personnes nous disent « mais l'institution, la société n'ont pas reconnu ce que moi j'ai subi ». Et puis parce que les conséquences traumatiques, physiques, psychiques des violences sexuelles sont très durables, parfois tout au long de la vie, et qu'il existe des soins, mais des soins qui sont coûteux, la réparation s'impose. Ça n'est que justice. Il faut rendre justice aux enfants violés et agressés sexuellement.
La réponse du gouvernement face à cette situation vous semble-t-elle pertinente et suffisante ?
Écoutez, le 31 mars 2022, nous avons publié 20 préconisations réalistes, réalisables, qui doivent aujourd'hui devenir des réalités. Et je suis heureux que la secrétaire d'État à l'enfance, Charlotte Caubel, ait annoncé que le gouvernement allait mettre en œuvre un certain nombre des préconisations que nous avons formulées dans le registre du repérage, la création de la cellule de soutien aux professionnels, le retrait de l'autorité parentale en cas d'inceste, le parcours de soins pour les victimes, une grande campagne publique de sensibilisation aux violences sexuelles faites aux enfants. Ce sont des avancées importantes et la CIVIL sera vigilante à leur mise en œuvre. Et puis, nous continuerons à demander que les autres préconisations que nous avons faites déjà soient mises en œuvre elles aussi. Enfin, nous continuerons à écouter la parole des victimes et nous continuerons à faire des préconisations de politique publique pour mieux protéger les enfants parce que la protection des enfants n'attend pas.
Vous le dites, les travaux de votre commission se poursuivent. L'Assemblée nationale a récemment créé une délégation aux droits des enfants, délégation chargée de nourrir le travail législatif sur des sujets qui vont de l'aide sociale à l'enfance aux violences intrafamiliales. Comment avez-vous accueilli cette initiative ?
C'est une très bonne chose parce que il faut une politique publique de la protection de l'enfance, de la lutte contre ce que j'appelle les violences de l'intime, les violences de la maison. Et cette délégation y contribuera. De même qu'il y a une secrétaire d'État à l'enfance, il est bon qu'il y ait à l'Assemblée nationale et au Sénat une délégation parlementaire à l'enfance. C'est très important, oui. C'est une préoccupation majeure. La façon dont nous protégeons nos enfants dit quelque chose de la façon dont nous nous pensons comme société.
Et vous entendez travailler avec cette délégation ?
Oui, bien sûr, la CIVIL est une instance publique et dès lors que des parlementaires la solliciteront pour des auditions, pour rendre compte de ses travaux, pour proposer des préconisations de politique publique, nous le ferons, c'est notre devoir.
Vous avez mentionné parmi les mesures annoncées par le gouvernement le retrait de l'autorité parentale. Ça, c'est un élément très important.
C'est absolument fondamental. Et je vais vous dire pourquoi. Il est profondément inacceptable et même immoral que le parent qui a violé son enfant soit celui qui autorise ou interdise que son enfant soit soigné. L'autorité parentale a pour finalité la protection de l'enfant. Et on ne transgresse pas la loi impunément. Un parent qui manque à ce point à ses devoirs qu'il prend son enfant pour un objet sexuel ne peut pas avoir l'autorité parentale. Retirer systématiquement l'autorité parentale à un parent déclaré coupable d'inceste n'est contraire à aucun principe. Au contraire, la raison commande que ce retrait soit systématique.
Et c'est un sujet qui a longtemps été ignoré. Vous avez le sentiment aujourd'hui que ce sujet est mis en lumière?
La fenêtre s'est ouverte. Elle s'est ouverte grâce à l'opiniâtreté des associations, grâce à la littérature, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux politiques publiques successives, grâce à la commission Sauvé dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis grâce à la création de la CIVIS par le secrétaire d'État Adrien Taquet il y a un an et demi maintenant. Il faut faire attention que cette fenêtre ne se referme pas. Parce qu'au moment même où on dit aux personnes victimes « vous pouvez témoigner, on vous croit », nombreux sont ceux qui disent « nous ne voulons pas entendre parler de viol et d'agression sexuelle, nous ne voulons pas entendre parler d'inceste ». Il faut donc rester vigilant, tenace, opiniâtre, car c'est une nécessité publique de lutter contre l'impunité des agresseurs. Ce qui coûte à la société, c'est l'impunité des agresseurs.
Le juge Édouard Durand, coprésident de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, il est notamment l'auteur de « Défendre les enfants, la mission d'un juge » aux éditions du Seuil. La situation au Liban a été évoquée lors de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Des représentants des États-Unis, de la France et de l'Arabie Saoudite ont exhorté les autorités du pays à mettre en œuvre les réformes exigées par le Fonds monétaire international et à organiser l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Une déclaration commune publiée en marge de l'Assemblée générale à New York. Nos trois pays expriment leur soutien continu à la souveraineté, la sécurité et la stabilité du Liban. Voilà ce qu'ont déclaré les trois représentants. La date limite constitutionnelle à laquelle le Parlement doit élire le prochain président du Liban est le 31 octobre, date à laquelle le mandat de l'actuel chef de l'État, Michel Aoun, prend fin. Les faits remontent à juin dernier. Le ministre espagnol de l'Intérieur affirme que la police espagnole a fait un usage proportionné de la force lors de la tentative de près de 2000 migrants de pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla. Au moins 23 candidats à l'exil avaient perdu la vie. Appelé à donner des explications sur ce drame depuis des mois par plusieurs groupes parlementaires, le ministre espagnol s'est exprimé pour la première fois devant les députés sur ce sujet. Ce drame de Melilla avait déclenché l'indignation internationale. L'ONU, comme l'Union africaine, avait dénoncé un usage excessif de la force. Le ministre tunisien du tourisme et de l'artisanat souligne que 2022 est bel et bien l'année de la reprise dans ce secteur en Tunisie, le secteur du tourisme. Mohamed Moez Belassine, qui s'est rendu au salon IFTM Top Reza à Paris, il était l'invité de Rencontre hier soir et ce matin, extrait de cette émission.
On est au mois de septembre, on peut tirer voilà, le bilan de la saison été 2022. Je pense que c'était une excellente saison été 2022. On a atteint les objectifs fixés pour cette saison, surtout avec une nouvelle dynamique sur le marché français, un très bon positionnement. La Tunisie est positionnée comme la quatrième destination sur le marché français. Donc la Tunisie est parmi les destinations préférées des touristes français. Et en termes de chiffres, on est revenu au résultat au niveau de 2019, donc avant pandémie, donc avant Covid-19. On a réalisé jusqu'à fin août plus de 600 000 clients sont venus, clients français sont venus en Tunisie. C'est très important cette performance et surtout cette reprise. De l'activité touristique sur un marché très important, un marché stratégique, un marché clé pour le tourisme tunisien. Et on voit également donc un intérêt accru des clients français et des acteurs du tourisme sur le marché français pour la destination en Tunisie. Et ils sont intéressés par d'autres facettes du tourisme tunisien, tels que le tourisme saharien, le tourisme oasien, le tourisme alternatif, le tourisme culturel, le tourisme sportif. Il y a beaucoup de choses à montrer, à beaucoup de choses à faire découvrir à nos amis français en Tunisie.
C'est cette diversification du tourisme que vous entendez mettre en lumière?
Oui, justement. Donc là, en Tunisie, on a un patrimoine matériel et immatériel très très riche. La Tunisie dispose de 8 sites classés patrimoine universel de l'UNESCO. Donc 7 sites archéologiques et un site naturel. Donc la Tunisie, on a plus de 30 000 sites culturels et archéologiques. En Tunisie, on a une richesse au niveau du patrimoine naturel. On a une richesse au niveau de la diversité, des paysages. On a également une richesse au niveau des ressources humaines, le capital humain, l'hospitalité tunisienne, la générosité, l'accueil. Donc tout cela fait que la Tunisie est très bien positionnée et la Tunisie est toujours, a été bon, toujours une destination préférée des Français et par tous ses attraits, tous ses atouts. Voilà.
Le ministre tunisien du tourisme et de l'artisanat, Mohamed Mouez Belhassine, il était l'invité de rencontre hier soir et ce matin. Émission bientôt disponible sur votre site internet radioorient.com. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient à 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash et 17h30 pour votre journal. Santé, les inégalités sociales tuent. Ce sera le thème de Et si on en parlait ce soir à 19h et 23h. Les invités d'Alexis Bachelet seront le médecin urgentiste Gérald Kierzek et le docteur Nicolas Leblanc. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est précisément 12h17.